I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. On parle poussière de comètes en compagnie de notre invité Bernard Marty. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de géochimie à l'École nationale supérieure de géologie et vous êtes le directeur du CRPG, le Centre de recherche pétrographique et géochimique qui est installé sur le campus de Vendeuvre-les-Nancy en Lorraine. Bernard Marty, une mission splendide, magnifique et extraordinaire qui fascine tous les gens qui s'intéressent au système solaire et aux comètes, c'est la mission Stardust. Alors Stardust, il faut se souvenir que c'est une mission qui a frôlé une comète, qui a récupéré entre guillemets des morceaux de cette comète et ces échantillons, vous êtes en train de les analyser et il faut dire que c'est la première fois qu'on regarde et qu'on ramène sur Terre des échantillons de comètes, hein. C'est vraiment une toute première.
Tout à fait, c'est la première fois qu'effectivement sur Terre nous avons des échantillons de comètes dont on soit sûr qu'ils viennent de comètes, parce que peut-être on en parlera, il y en a d'autres qui viennent peut-être de comètes déjà, mais on en est moins sûr, donc c'est la première fois.
Bon, alors c'est une mission américaine ?
Une mission américaine, totalement américaine, NASA.
À laquelle vous êtes associé ?
À laquelle nous sommes associés avec des collègues européens, enfin français, européens. Il y a tout un consortium qui est associé pour analyser ces grains cométaires, pour les caractériser d'abord,
ouais.
Hein, voir à quoi ils ressemblent. À l'œil ou avec des microscopes ou avec des rayons X, et ensuite analyser certains paramètres, la composition chimique, isotopique, etc.
Alors c'est une mission spatiale qui est partie il y a déjà quelques années, qui a survolé une comète qui s'appelle Wild 2 en janvier 2004. Pourquoi celle-là ?
Je crois qu'on dit Wild d'ailleurs.
On dit Wild ?
Il me semble que c'est un hollandais.
C'est un hollandais, W-I-L-D en tout cas.
Il me semble.
Pourquoi celle-ci ?
Alors, c'est une question d'opportunité. Enfin, il y avait deux raisons, en fait. La première, c'est qu'il faut que la comète soit fraîche. Alors, il y a des comètes fraîches et des comètes pas fraîches. Vous savez que les comètes passent dans le système solaire interne, elles viennent de régions éloignées, elles se rapprochent du Soleil et elles repartent. Elles ont des orbites elliptiques, pas des orbites rondes comme la Terre. Donc, elles passent régulièrement près du Soleil. Une comète qui est passée trop longtemps, elle s'est évaporée. Parce qu'en fait, elle est riche en glace. Et donc, eh ben, si vous chauffez, au bout d'un moment, bloup, il n'y a plus que le solide.
Alors, il fallait donc, une fraîche.
Donc, il en fallait une fraîche et il en fallait une qui soit accessible. Parce que le système solaire c'est très grand et pour une mission disons raisonnable, dans un temps raisonnable, il faut aller chercher des objets qui sont dans ce qu'on appelle le système solaire interne, c'est-à-dire entre Mars en gros et le Soleil, quoi. Mars, la Terre, Vénus, etc. Et donc celle-là remplissait les deux conditions, elle était toute fraîche arrivée, ou presque, elle avait circulé qu'une dizaine de fois je crois, et elle passait entre la Terre et Mars, donc pas très loin.
Les pilotes des sondes ont fait une très très bonne opération là, parce que réussir à frôler une comète à, je crois, quelques milliers de kilomètres, c'est quelque chose comme ça.
Ah oui, ça a été quelques dizaines de kilomètres.
Kilomètres.
C'était une navigation absolument incroyable.
On a des photos d'ailleurs qui sont qu'on peut trouver sur le web qui sont très belles. On voit un noyau cométaire de 5 km de diamètre. D'ailleurs très stupéfiant. Tout le monde s'est esbaudi devant le noyau de la comète en se disant mais c'est incroyable. On dirait des collines, des vallées, des bouches qui crachent de la matière. Vous avez vraiment eu de la chance de trouver une comète à la fois active et fraîche comme vous dites.
Oui tout à fait. Oui. Elle a une morphologie étonnante, surtout qu'on n'avait jamais vu vraiment une comète. C'est-à-dire qu'on la voyait de loin, mais on la voyait par la lumière qu'elle émettait. Il y avait une sonde européenne qui s'était rapprochée d'une comète.
Giotto.
On la voyait relativement floue. Et là, d'un seul coup, on avait la résolution d'un bon appareil photo. Et on la voit complètement. Donc, en plus, c'est vrai qu'elle émet beaucoup de lumière. Donc, il y avait des filtres. On voit la surface comme on verrait la surface lunaire. C'est extraordinaire.
Alors, la mission, c'était évidemment d'approcher la comète, de la survoler, de récupérer des échantillons et de revenir sur Terre. Récupérer des échantillons, comment ça se passe ? C'est un filet papillon ?
Alors, c'est une mission qui est tout à fait dans l'esprit pionnier américain, c'est-à-dire qu'on part à cheval avec un lasso, on se met derrière quelque chose, on le prend et puis on le ramène à la maison. C'est tout à fait cet esprit. Là, c'était aussi avec une raquette de tennis, mais cette fois, au lieu d'avoir des cordages tendus, au contraire, c'était des amortisseurs. En gros, c'était un panneau qui comporte des alvéoles d'un matériel très très poreux, très très peu dense, donc destiné à amortir le choc. Et les particules sont venues s'enficher dans ces alvéoles remplies de ce matériau.
L'aérogel. L'aérogel. C'est ça, oui. Aérogel, c'est... On imagine
c'est,
du gel,
mais... C'est plus de 99% d'air, enfin, ou de vide, sous vide, bien sûr. Et puis, en fait, c'est de la silice, hein, c'est un gel de silice.
Et donc là, la sonde est passée dans
la... Donc elle est passée dans la queue de la comète. Elle a redressé sa raquette pour la mettre perpendiculaire à la comète. Et quand elle est passée, eh bien, elle a récolté des grains qui avaient des vitesses de l'ordre de 6 km par seconde.
Alors 6 km par seconde brutalement freiné, j'imagine que ça...
Ça fait des dégâts. Oui, normalement, le grain se volatilise. Il se vaporise. Or là, le fait qu'il y ait l'aérogel a permis d'amortir un peu le choc et donc à une partie du grain de survivre. Mais enfin, quand même, on voit bien des explosions à l'entrée, dans l'aérogel, à l'entrée du grain.
Alors la sonde est revenue sur Terre, ce qui n'est pas nécessairement non plus une affaire facile. On se souvient de Genesis et de l'absence d'ouverture de parachute. Là, Stardust s'est posé dans le désert de l'Utah. On a récupéré les échantillons. Combien est-ce qu'il y avait de matériaux, si je puis dire, cométaires ?
Alors je crois que... Bon, on n'a pas tout inventorié encore, parce qu'il y a à peu près 15% des grains qui ont été inventoriés dans l'aérogel. Il me semble qu'on est dans l'ordre de 10-6 grammes, c'est le millionième de gramme qui est récupéré à peu près.
Qu'on récupère morceau par morceau ?
Alors oui, c'est assez compliqué parce que les grains sont petits, hein. ils sont de l'ordre du micron, donc pour manipuler des choses de l'ordre du micron, c'est très compliqué. Donc en fait, les gens qui sont en charge de ça coupent des bouts d'aérogel dans lesquels le grain terminal, c'est-à-dire qu'il y a une traînée en fait, hein, de rentrée, et donc au bout de la traînée, ben, y a un petit bout de grain qui est pris dans l'aérogel, et donc ils coupent un morceau, et après c'est à chacun de se débrouiller avec ça.
Alors, vous, quel est votre rôle dans cette affaire-là ?
Alors, nous, on y a deux titres. On a des gens qui travaillent avec une sonde ionique au CRPG, qui est un micro-analyseur, qui sont, Marc Chaussidon, qui sont au titre de l'analyse de l'oxygène isotopique. Et nous y sommes au titre de l'analyse des éléments volatiles, gaz rares et azote. Alors, avec nos techniques, on a développé spécifiquement également pour cette mission.
Donc, vous êtes chargé de faire parler ces grains ?
Voilà, on essaie de les faire parler, effectivement. Et c'est pas évident parce que pour les volatiles, lorsque les grains sont arrivés dans l'aérogel, ils ont explosé pratiquement. Donc il n'y a que quelques particules qui ont fini. Et donc on a une bulle d'explosion qui est figée dans l'aérogel. Et on s'est dit, si on va voir dans la bulle, le grain terminal, il s'est dégazé. Lors de l'explosion, il ne reste plus que du solide, il n'y a plus de volatiles. Et on s'est dit, on va aller les chercher dans la bulle d'explosion. Qui est figé dans l'aérogel. Donc on a demandé en fait à avoir des parois de cette bulle d'explosion. Alors les parois, c'est pas gros, hein, ça fait quelques dizaines de microns, hein, de longueur. Et on a fondu tout ça avec l'aérogel et on a tout fondu au laser, sous ultravide. On a récupéré les gaz, on les a analysés. Et de façon à être sûr que ça venait bien de la bulle d'explosion, on a pris de l'aérogel sain, c'est-à-dire dans lequel il n'y avait pas eu de particules implantées, et on l'a analysé pareil. Et donc la différence est due en fait au dégazage du grain cométaire.
En fait, vous regardez les conséquences de l'explosion de ces grains, voilà, dans l'aérogel pour en déduire sa composition.
Hein. Voilà, pour déduire la composition des gaz rares.
Est-ce qu'il y avait une autre solution moins violente, si je puis dire, que celle de l'aérogel ? Est-ce qu'il y avait un filet à papillon plus doux ?
La seule façon aurait été d'avoir une vitesse relative, c'est-à-dire une vitesse entre les grains et la sonde moins importante. Mais là, ça supposait de la navigation, c'est-à-dire ça supposait un engin spatial capable de naviguer, d'accélérer, de freiner. Et donc, c'était une autre dimension de mission. Là, c'était vraiment on prend et on revient, quoi. C'était une mission pas chère, entre guillemets, pour la NASA. Il y a plusieurs classes de missions. Là, c'était 350 millions de dollars. C'était la mission pas chère.
350 millions de dollars pour amener des petits morceaux de comètes. Alors, ce dépouillement est en cours. Vous avez analysé la mission, les équipes scientifiques, 15%, dites-vous ?
Oui, alors nous, on a eu la chance de découvrir qu'effectivement des gaz rares dans ces bulles d'explosion. Et c'est la première analyse de gaz rares fiable de comètes qu'il y a jamais eu.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, les gaz rares, c'est des éléments qui sont inertes chimiquement. Il y en avait beaucoup dans la nébuleuse et il y en a très très peu dans les planètes parce qu'ils sont très peu piégés lorsque la matière se condense ou dans les phénomènes haute température. Et dans les comètes, on pense qu'elles se forment, enfin on sait qu'elles se forment dans des milieux très froids et on pense qu'elles contiennent beaucoup de gaz rares parce qu'en fait ils ont été gelés. soit dans des clatrades, dans des caches d'eau, soit lors de la formation de neige qui s'est accumulée. Donc on pense qu'ils sont là. Et là où ça peut nous renseigner, par exemple, c'est que la quantité de gaz rare que vous avez, elle va dépendre de la température de piégeage. Donc vous pouvez avoir une idée de la température de formation cométaire. Et là, les gens qui font des modèles nous disent, attendons, si la température est de tel type, ça viendrait de telle région et ça correspondrait à tel phénomène quand le système solaire s'est formé, ou bien ça viendrait de notre région, etc. Donc là, on a peut-être moyen de faire des choses intéressantes pour mieux comprendre l'origine des comètes.
Alors, il semblerait que ça pose un problème, Bernard Marty, puisque 10 mois après le retour sur Terre, on est un peu plus, presque un an après le retour sur Terre aujourd'hui, les poussières laissent quand même perplexes les scientifiques d'après les informations qu'on a pu avoir, parce que ce sont quand même pour les comètes les objets les plus froids du système solaire, et puis on découvre dans ce matériau qu'il y aurait des minéraux formés à très haute température. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que les comètes sont formées près du Soleil, ce qui serait tout à fait aberrant? Comment vous analysez ça?
On dirait les deux. C'est-à-dire qu'en fait, les comètes, c'est un sorbet qui contient, du sable, on va dire. Donc, si vous mettez du sable, le sable, c'est des silicates, c'est des choses qui se forment à très haute température. Et puis, le sorbet, forcément, il faut que ça fasse froid. Donc, si vous saupoudrez, vous arrivez à mélanger les deux. Et donc, ça veut dire qu'il y a eu, effectivement, un phénomène, des processus dans le système solaire, quand il s'est formé, parce qu'on le verrait pas maintenant, enfin, des processus qui ont mélangé des choses qui sont formées très près du Soleil avec des choses qui sont formées très très loin du Soleil. Donc on a eu un brassage à très grande ampleur du système solaire.
En trouvant des minéraux comme de l'olivine ou des choses comme ça qui se forment à des températures très
importantes.
Voilà,
tout à fait. L'olivine, c'est un minéral que vous trouvez dans les laves des volcans.
Oui.
C'est un minéral ubiquiste des laves de volcans qu'on trouve dans les corps planétaires, dans les météorites.
Dans les météorites.
Mais ces olivines, elles se forment à plus de 1500 degrés Celsius.
Ouais, parce que les fameuses palazites, là, les météorites où on trouve de l'olivine et justement beaucoup de métal.
Qui est l'interface entre un manteau planétaire et un noyau. Ouais. Et le manteau, lui, il est bourré d'olivine. Et c'est l'olivine cristallisée.
Alors ça change l'idée que les planétologues ont de la formation cométaire, ou en tout cas, ça donne des informations originales et initiales sur la composition de
l'âge
de Oort.
Oui, disons... il y a plein de choses qui changent notre façon de voir les comètes. D'abord, les comètes, elles viennent du système solaire. Ce sont des objets du système solaire. Il y avait un débat. Après tout, pourquoi ça ne serait pas des objets venant du milieu interstellaire qui auraient été piégés par le système solaire? Et là, la réponse est vraisemblablement non, parce qu'on retrouve dans les comètes des compositions minéralogiques, de l'olivine, vous l'avez dit, des compositions isotopiques qui sont, je dirais, classiques, entre guillemets, de ce qu'on peut trouver dans le système solaire, par exemple dans les météorites. Donc il y a une filiation qui a l'air assez importante. Donc ça, c'est la première information. La deuxième information, c'est qu'effectivement, c'est un mélange, comme on vient de le dire, de matériel condensé à très très basse température, de matériel formé à très haute température. Donc le système solaire, c'est quand même grand. Donc ça veut dire qu'il y a eu un brassage, vraisemblablement, avec de la matière qui a circulé depuis le centre vers l'extérieur. Or, il y a des modèles pour ça. Il y a des gens qui ont déjà imaginé des modèles très intéressants où on éjecte près du Soleil grâce à des boucles magnétiques de la matière et on l'envoie au fin fond du système solaire.
Ah,
donc
ouais.
Là, il y a des modèles qui existent. Donc ça, c'est le deuxième type d'information que l'on a. Le troisième type, c'est sur les volatiles. On trouve des gaz rares. C'était notamment léger, donc des températures de formation très très basses sur lesquelles il va falloir travailler maintenant. On pense aussi qu'on peut qualifier un certain nombre d'échantillons qu'on a sur Terre comme étant d'origine cométaire. Par exemple, il y a des météorites très rares. Il y en a une qui est tombée dans Tarn-et-Garonne, le siècle dernier, qui s'appelle Orgueil, qui est une météorite vraiment très très primitive, dont la composition hors élément volatile est celle du Soleil, celle mesurée dans la chromosphère solaire. Et cette météorite, notre collègue Mathieu Gounel a étudié son angle d'entrée dans l'atmosphère, sa trajectoire. Et pour lui, ça peut être cométaire, parce que ça n'a pas une trajectoire circulaire comme les météorites classiques, c'est une trajectoire elliptique, et ça viendrait de beaucoup plus loin que les planètes les plus externes.
Avec une particularité en ce qui concerne Orgueil, c'est la présence d'acides aminés sur cette météorite. Donc on touche aussi quelque chose qui est très intéressant. Là.
Alors peut-être qu'effectivement on touche des compositions qui sont peut-être à la base de la chimie organique, ou d'une chimie organique évoluée. Alors que la vie vienne des comètes, pourquoi pas? Enfin, de tout temps, on a pensé à l'origine cométaire des océans, l'origine de la vie Ça paraît un peu difficile quand même. Ce qui est sûr, c'est que les comètes contiennent des molécules organiques évoluées qui ont pu servir de base éventuellement à une chimie, donnant lieu à des réactions biologiques plus tard.
Alors tout ça pour l'instant uniquement avec 15% du matériau dépouillé concernant Stardust. Hein. Il y a encore beaucoup de choses à trouver sans doute.
Ah oui, tout à fait. Oui. Et puis donc Stardust c'est une comète. Qui dit que toutes les comètes sont les mêmes, ont la même composition? On a vraiment pour l'instant ouvert juste une porte. Donc il y a encore plein de travail à faire. Et il va y avoir un travail de plus en plus long et difficile parce que eh bien, ce qu'on n'a pas vu, c'est les grains, souvent c'est les grains les plus petits, mais je suis assez confiant pour que les programmes analytiques le permettent.
Alors, est-ce que vous êtes sûr de n'avoir que des grains de comète dans les échantillons ramenés par Stardust?
Alors, Stardust a également échantillonné des micrométéorites. C'est-à-dire des petits bouts de météorites, de poussière de planètes que l'on sait qui existent hein, dans le système solaire et qui sont venus s'en ficher également. Mais la raquette de prélèvement était orientée de telle façon qu'elle présentait sa face cachée, si je puis dire, enfin son envers pendant le trajet, pendant la récolte des météorites, des micrométéorites. Et ces micrométéorites sont également étudiés dans le cadre de cette mission. Mais disons, l'aérogel qui a collecté les grains cométaires a été protégé pendant tout le trajet.
Est-ce qu'il y aurait pu y avoir des grains interstellaires, du matériau qui arriverait d'en dehors du système solaire? Alors, collecté à cette occasion?
Oui, tout à fait. C'était l'une des grandes questions que posait la mission Stardust, c'est de savoir si effectivement les comètes, c'est du matériel qui n'a rien à voir avec le système solaire qui provient. Et il y a un grain extrasolaire qui a été trouvé dans Stardust. Donc, dont on a pu caractériser par sa composition isotopique qu'effectivement il était extrasolaire. Ceci dit, ces grains ils existent dans les météorites. Il y a même certaines météorites qui en ont beaucoup. C'est des grains très petits, mais on sait qu'on a un héritage d'autres étoiles dans le système solaire. Quand le système solaire s'est formé, c'était du gaz et de la poussière. Une partie de la poussière a survécu au processus de formation du système solaire haute température. Donc ces grains, ils existent. De ce point de vue-là, le fait que Stardust en contienne un peu, en fait, il n'y en a qu'un qui a été trouvé, n'est pas en soi une indication que c'est un objet étranger au système solaire.
Alors Bernard Marty, on dit souvent qu'il faut aller dans le système solaire, prélever des échantillons. Vous nous l'avez expliqué pour Stardust, vous nous l'aviez expliqué pour Genesis, il faudra sans doute aller sur Mars, etc. Quelle est l'importance pour l'histoire du système solaire et pour le géologue d'aller sur place, in situ, récupérer des morceaux?
C'est principalement analytique, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, avec des sondes, je dirais télécommandées, faire une qualité analytique que vous pourriez faire en laboratoire. Et il y a plein de domaines où on a besoin d'avoir cette précision analytique. Un exemple, si vous voulez dater une surface, dater des roches, hein, c'est comme ça que, par exemple, on s'est aperçu que les cratères lunaires étaient très anciens, enfin les grands cratères, et ça c'est essentiel pour comprendre comment un corps fonctionne, vous pouvez le faire qu'en laboratoire en pratique. C'est-à-dire que des systèmes automatisés devront être miniaturisés de toute façon, et il n'y aura pas un expérimentateur à côté qui pourra vérifier que tout se passe bien.
On ne peut pas envoyer votre labo sur la Lune entièrement automatisé, c'est ça que vous voulez
dire? Si on insiste, on fera un effort, mais a priori, ça serait beaucoup plus facile de ramener d'envoyer quelqu'un ou même une sonde prendre un caillou sur la Lune et le ramener comme on l'a fait. Que d'envoyer un laboratoire. Donc il y a cette limitation. Il y a une qualité analytique, une précision que l'on ne peut pas obtenir par des analyses avec des robots ou des sondes envoyées sur place. On fait des analyses, ceci dit. Il y a des analyses très belles qui ont été faites sur l'atmosphère de Vénus, sur Mars, sur l'atmosphère de Jupiter. Tout ça, c'est très beau, c'est très bien. C'est déjà une première science de base. Après, si on veut progresser dans notre connaissance, il faut analyser des isotopes avec des précisions qu'on ne pourra jamais obtenir à des systèmes embarqués.
Votre ennemi à vous dans votre laboratoire, c'est le grain de poussière qui passe là par hasard, c'est la contamination, c'est celui qui vient d'ailleurs?
C'est quand rien ne se passe comme prévu.
Ça arrive?
Ce qui arrive assez souvent, oui. Oui, c'est en anglais, on parle de la loi de Murphy, c'est-à-dire... si quelque chose ne doit pas marcher, eh bien ça marche pas. C'est obligé que ça arrive que ça ne marche pas. Donc c'est une accumulation de problèmes et puis qu'on essaie de résoudre au fur et à mesure et qu'on arrive à résoudre plus ou moins et on passe à d'autres problèmes, etc. C'est vraiment, ce sont des systèmes qui n'existent pas au départ, hein, et qui doivent obtenir des performances qui n'existent pas non plus. Donc on est toujours sur la corde raide. Donc l'ennemi, effectivement, c'est tout ce qui va de travers, si je puis dire.
Merci Bernard Marty. Merci à vous de nous avoir suivis et évidemment rendez-vous au prochain épisode.